Bonjour, aujourd'hui un des plus grands musiciens du 19e siècle, Robert Schumann. Jamais depuis Schumann, la musique pour peindre la douleur, la tendresse, l'apaisement devant la nature n'eut des traits d'une beauté aussi absolue. Chaque note est une parole ou un cri. Marcel Proust. D'histoire. Ils sont nés presque en même temps dans les premières années du 19e siècle et ils ont inventé une musique comme on n'en avait encore jamais entendue. Ils s'appelaient Berlioz, Mendelssohn, Chopin, Liszt ou Wagner. Mais parce qu'elle venait du plus profond de lui-même, de tous ces compositeurs romantiques, aucun n'a vécu aussi intensément sa musique que Robert Schumann. Jusqu'à en perdre la raison et même la vie dans un asile de fous où il est mort en 1856 à l'âge de 46 ans. Il y a passé les deux dernières années de sa vie en refusant de revoir celle pour laquelle et avec laquelle il avait écrit quelques-unes de ses œuvres les plus connues, une pianiste célèbre qui était devenue sa femme, Clara Schumann.
Ce que je vais jouer pour vous ce soir n'est pas prévu au programme. C'est d'un jeune compositeur que l'Europe entière commence à découvrir. Monsieur Robert Schumann. Étude symphonique opus 13.
Michel Schneider, bonjour.
Bonjour.
C'était l'extrait d'un téléfilm de Jacques Sertal, Robert et Clara Schumann, deux destins inséparables. Vous le rappelez dans un livre sur Schumann que vous avez écrit chez Gallimard Découverte. Schumann, d'ailleurs, dites-vous, disait à Clara, en rêve, j'entends de la musique, c'est vous qui la composez.
Oui, c'est une histoire étrange et à la fois belle et tragique, une histoire d'un amour passionné qui a duré jusqu'à la mort de Schumann, mais qui se termine de façon assez étrange puisque Robert, pendant les deux dernières années où il était interné à sa demande à Endenich, à l'asile psychiatrique, n'a pas voulu que sa femme vienne le voir, et elle n'a pas cherché non plus très vivement à le retrouver, sauf deux jours avant sa mort. Donc cette proximité, cette fusion qu'il y avait entre les deux âmes, c'est quand même interrompu au moment où lui a sombré dans la folie, et elle ensuite a eu une attitude assez étrange avec les compositions de la fin qu'elle a jugées trop discordantes, trop folles, marquées par l'empreinte comme ça déjà de la dissociation de pensée. Elle a censuré carrément, détruit physiquement un certain nombre d'œuvres de son mari, qui pourtant était pour elle le cœur de la musique.
Alors ils s'étaient rencontrés en 1832, elle avait 12 ans et lui 22. Cela dit, Schumann sortait d'une enfance d'où il n'avait pas envie de quitter. Vous l'écrivez, Michel Schneider, hein, il n'a jamais voulu devenir grand.
Oui, c'était quand même étrange cette rencontre, un garçon de 22 ans qui s'éprend d'une enfant. Tout de même, il faut pas, il y a 10 ans d'écart entre eux, presque 10 ans. Il a découvert en elle une enfant prodigieusement douée, qui composait déjà des petites pièces, qui n'étaient pas d'ailleurs exceptionnelles à l'époque. Et je veux dire, elle était déjà plus adulte qu'enfant par ses talents, par son côté de prodige pianistique. Et lui, à l'inverse, était resté quand même très très enfant. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu devenir grand, en effet, n'a jamais voulu quitter son enfance.
Une enfance qui a pourtant été pour lui assez tragique. Elle n'est pas malheureuse à proprement parler, mais on sait que on y reviendra. Schumann était un homme un peu désespéré, manifestement atteint de maladies nerveuses, et quand même avec un lourd passif, un père qui était libraire à Zwickau où Schumann est né né en 1810 et qui est frappé, comme le sera son fils, par des troubles nerveux. Il va en mourir en 1826. Et puis, peu de temps après, c'est la sœur de Schumann qui va se suicider. C'est une enfance quand même qui est terrible.
Alors, c'est une chose que j'ai découverte. Je ne suis pas historien, mais il se trouve que dans un premier livre publié sur Schumann il y a une quinzaine d'années, j'avais fait l'hypothèse, en regardant un petit peu ce qu'on racontait sur cette sœur, qu'elle s'était suicidée. Parce qu'on disait dans les livres que la sœur était morte quand elle avait 20 ans et lui, Schumann, avait 16 ans. Donc c'est la même année que la mort de son père. Et on disait qu'elle s'était noyée accidentellement. Et je pensais, à travers la musique de Schumann, qui a un tel poids de tragique autour de l'eau, de la femme disparue, de la perte de l'être aimé, que probablement cette mort, elle n'était pas accidentelle et qu'elle avait voulu mourir, qu'elle s'était suicidée. Et puis il se trouve qu'à à l'effondrement du communisme et de la RDA, on a eu accès enfin aux archives de Zwickau, qui sont près de Leipzig, et là on a trouvé effectivement, enfin des biographes ont trouvé la preuve que mon hypothèse, qui était purement psychologique, enfin qui était subjective, en fait était confortait la réalité objective et historique des faits. Elle s'est donc bien suicidée. Et pour lui, ça a été une tragédie parce que cette sœur était sa part féminine, n'est-ce pas ? Et très probablement que dans l'attachement qu'il a eu ensuite avec toutes les femmes et singulièrement avec Clara, il a cherché à retrouver quelque chose de cette fusion avec l'âme sœur.
En tout cas, une enfance contrariée, celle de Robert Schumann, aussi par la volonté qu'a sa mère de lui faire faire des études de droit, alors qu'il préfère la lecture et la musique qu'il va apprendre chez un professeur de piano célèbre à Leipzig, justement le père de Clara, Friedrich Wieck.
Monsieur, puis-je vous parler un instant ? Voilà, je suis à l'université, et le temps pour étudier la musique m'est compté. Je voudrais tant apprendre la musique.
Quand on le veut vraiment, il est possible de s'organiser. Les études, la technique, c'est tout un art, cela ne s'invente pas.
Prenez-moi comme elle est.
Le doigté. Votre deuxième doigt. Très légère, la main droite. Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas ce qui est écrit sur la partition.
Mais si, maître. Moi, je l'entends.
Vous ne faites aucun progrès. Vous cherchez uniquement à plaire. Commencez donc par maîtriser la technique froidement, dans la rigueur.
Plus froid et technique, je ne peux pas travailler sans inspiration, sans sentiment.
Les sentiments ? Un peu de patience, nous n'en sommes pas là.
Vous le savez sûrement, Michel Schneider, la première œuvre signée de Schumann, Abeg, c'est signé en 1830. Schumann, on l'a entendu cet extrait de film, privilégiant à l'évidence, et ça se sent en vous lisant, ça se sent aussi en écoutant, l'inspiration, les sentiments à la technique.
Oui, cette première œuvre, ce sont des variations, et il est à noter que la dernière œuvre de Schumann, qu'on appelle les Variations fantômes, qui est une œuvre très dissociée, très cassée, très ruinée par déjà la folie, ce sont aussi des variations, c'est-à-dire un thème qui ensuite fait l'objet de changements. Mais justement, on voit bien la différence, c'est que les premières variations sont très très inventives, pleines de légèreté, d'imaginaire, et les dernières sont très répétitives, comme s'il n'arrivait plus justement à varier, mais qui répétait une sorte d'idée fixe. Alors en effet, Chopin était d'emblée le contemporain exact de ils sont nés la même année, le contemporain de Schumann était le modèle, c'est-à-dire que lorsque Schumann a découvert Chopin, ça a été l'émerveillement. Il a dit chapeau bas messieurs, voilà un génie. Bon, ce que tout le monde ne pensait pas à l'époque. Et très vite, le piano est devenu pour Schumann ce qu'il était pour Chopin, c'est-à-dire l'instrument exclusif. Alors pour Schumann, ça a été heureusement il a été capable de quitter le piano pour d'autres registres instrumentaux, mais le piano est resté toute sa vie le domaine de l'intime, le domaine de la confession, le domaine où l'on est seul avec soi.
Et avec un professeur tyrannique, hein, c'est Friedrich Wieck, le père de Clara était despotique. Je ne sais pas si cet extrait de film correspond à la réalité, mais c'est ce que vous écrivez en tout cas.
Ah, c'était un très bon pédagogue. Gog, qui a réussi à faire de sa fille une pianiste exceptionnelle. C'était Clara a été, du vivant de Schumann, mais surtout longtemps après, la première femme concertiste en Europe. Elle faisait des centaines de concerts par an, elle était extrêmement connue, et c'est d'ailleurs elle qui faisait vivre la maison. Schumann, lui, n'était pas très doué pour le piano, est tombé sur un professeur un peu brutal et qui lui a fait faire des exercices, et lui, son imagination était plutôt dans la recherche de forme que dans l'exécution technique des choses. Et très vite, ils se sont mal entendus, et s'est greffé là-dessus, évidemment, le conflit, puisqu'il voulait voler à ce père sa fille, qui était pour le père aussi son gagne-pain, si on peut dire.
Oui, on y reviendra, mais vous évoquiez la dureté de Vic vis-à-vis de Schumann. Schumann était très dur avec lui-même, vous le dites aussi, en fabriquant, par exemple, un véritable instrument de torture pour être plus habile de ses mains, et même en se ligaturant les deux doigts d'une main pour faire progresser l'indépendance des autres.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je me suis fabriqué un appareil pour maintenir le médius en l'air. Regarde, comme ça.
C'est une drôle d'idée.
Tu vois, comme ça les autres doigts sont indépendants. Je vais avoir des résultats exceptionnels.
Tu es fou, Robert, ou quoi ? Tu maltraites ta main.
Tu verras. Tu feras comme moi.
Premières œuvres de Schumann, Papillon, en 1830. C'est affreux, cette machine. Vous en parlez aussi dans votre livre. Je crois qu'il a perdu ses doigts à cause de cette machine qu'il s'est imposée.
C'est ça, à vouloir la perfection, on est sûr d'échouer. Il a voulu acquérir une digitalité, une dextérité extraordinaire avec sa main droite. Il a trouvé ce dispositif, il en a essayé bien d'autres, mais enfin un dispositif qui consistait à ligaturer les mains, les deux doigts médians de la main droite à une poulie accrochée au plafond, et puis il mettait des contrepoids, et puis finalement il a perdu complètement toute l'articulation de ses doigts. Alors, est-ce qu'on doit le regretter pour lui, peut-être, parce que c'est l'occasion d'une douleur, en tout cas physique, mais c'est à ça qu'on doit qu'il est devenu compositeur. Parce que s'il n'avait pas, par une sorte d'acte manqué, pas faire une psychanalyse à bon marché, mais il s'est quand même interdit le piano, il s'est interdit de devenir concertiste, il a laissé ça, il le dit d'ailleurs, il dit « Clara, c'est ma main droite maintenant ». Il a laissé donc, elle, le rôle de l'interprète, pour se réserver à lui ce rôle de compositeur qui était masqué par l'idéal de sa mère et de son professeur de faire de lui un concertiste. Donc s'il n'avait pas eu cet accident, il serait resté un pianiste médiocre dans son siècle et on l'aurait tous oublié, alors que ça lui a permis de devenir un des plus grands compositeurs.
Ça, et puis alors quelque chose dont il se rend compte assez rapidement, je crois qu'il appelle sa mélancolie, en fait, qui était, il s'en rend compte assez vite, des hallucinations auditives, des angoisses, des difficultés respiratoire et d'élocution. Comment est-ce qu'on appellerait cette espèce de folie qu'il sent venir à ce moment-là?
Voilà, alors il y a une idée fausse qui court souvent, c'est que Schumann est devenu fou comme ça un beau matin de février 1854. Il sort de chez lui, il se jette dans le Rhin alors qu'il fait moins 10 dehors, et il est ramassé par des mariniers qui l'emmènent chez lui, puis il demande très vite à être hospitalisé, sentant qu'il est en danger. Bon, on voit que la folie était là au début, hein. Probablement est-ce lié à cette mélancolie, à la disparition volontaire de sa sœur, et puis un tempérament peut-être aussi hérité du père, qui était lui-même un mélancolique. La mère était dépressive, elle chantait, elle a voulu l'empêcher de faire de la musique parce qu'elle savait que pour elle ça représentait aussi un danger de souffrance, de douleur. Alors les caractérisations à l'époque n'étaient pas très précises en psychiatrie. Aujourd'hui, la plupart des médecins qui ont regardé son dossier médical, justement dans les fameuses archives de l'hôpital où il a été interné, pencherait vers une psychose bipolaire, c'est-à-dire une folie maniaco-dépressive avec des phases d'hyperexcitation qu'on entend par exemple dans les papillons, cette espèce de rage, d'emportement comme ça, suivi de grandes retombées, de grandes plages d'immobilisme.
Alors cela dit, Schumann, c'était aussi, et ça ne cadre pas avec l'idée qu'on s'en fait, un bon vivant qui aimait boire, qui aimait fumer, qui aimait aussi ses amis avec lesquels il avait fondé en 1834 une revue, la Neue Zeitschrift für Musik, dans laquelle il critiquait ce qu'il appelait les Philistins. C'était quoi les Philistins, Michel Schneider?
Il a créé une association qui s'appelle les Compagnons de David et qui luttait contre les Philistins dans la musique, c'est-à-dire les professeurs qui enseignaient, au fond, la musique classique, le développement, la rigueur du contrepoint, enfin, en fond, des gens qui étaient encore à Bach 40 ans après Beethoven, quoi. Bon, donc, il y avait effectivement ce combat un peu imaginaire, parce que, je veux dire, tout ce n'était pas réactionnaire, et Schumann n'est pas non plus un grand novateur, je veux dire qu'il n'a pas révolutionné ni l'harmonie, ni les procédés d'écriture, ni l'instrumentation. C'est plutôt par des détails qu'il a innové, mais bon, il a eu besoin, comme ça, de faire un mouvement politique, presque, on peut dire, ou idéologique, pour remuer les idées, pour remuer le milieu musical, et s'y faire un nom.
Alors, il a des idées sur la musique, il a aussi des idées sur les femmes. Vous rappelez qu'au fond, c'était un homme hanté par les femmes, dont la présence lui semblait indispensable. Vous en citez plusieurs, Agnès Carus, qu'il rencontre très jeune, Ernestine von Fricken, pour laquelle il va composer Carnaval, et puis alors la fille de son professeur, Clara, dont il tombe amoureux et que son père s'efforce d'éloigner de Schumann.
En route.
Clara ! Vous partez encore ?
À Brest. Quelque temps, elle doit se perfectionner.
Vous pourriez jouer vos heures.
Arrêtez ! Arrêtez ! Je jouerai le 23 à 11h précise, l'étude en mi majeur de Chopin. Je penserai à vous. Rien qu'à vous. Je vous en prie, faites la même chose.
Je le ferai.
Allez, en route !
C'est vraiment pour Ernestine que vous avez écrit Carnaval ?
Carnaval est à vous.
Carnaval, une des œuvres les plus connues de Schumann, écrite en fait pour Ernestine, mais c'est Clara, la fille de son professeur, qu'il va épouser. Alors ça, c'est difficile, parce que le père essaye d'éloigner sa fille de Schumann, il le connaît bien, c'est son élève, mais enfin, qu'il le sent devenir, qu'il considère qu'elle n'est pas pour elle, il l'enlève littéralement, et les deux, Clara et d'abord, ils sont séparés pendant des années, et les deux vont même faire un procès
au père
pour se marier.
Oui, non, c'est une affaire qui a duré 5 ou 6 ans,
Elle n'a plus 12 ans, hein, il faut
elle
rappeler.
Elle n'a plus 12 ans, bon. Quand ils échangent un premier baiser, elle en a 15, ce qui est quand même assez jeune. Et le père, évidemment, tout de suite, prenant cette histoire, trouve que c'est pas du tout le parti qu'il souhaiterait pour sa fille. D'abord parce qu'il voudrait que sa fille termine, se lance dans une grande carrière et que c'est un peu incompatible avec le mariage et l'avenue d'enfant. Donc il y a toujours cet aspect-là chez le père, c'est un homme très calculateur. Il veut pas qu'on lui gaspille son capital. Et puis, il voit en Schumann, un type qui quand même boit pas mal et assez déséquilibré. Et donc, on peut comprendre que le père n'ait pas été très enthousiaste devant l'idée de ce mariage. Cela dit, il y avait aussi une espèce de possessivité. Vic avait été quitté par sa femme et avait reporté sur sa fille toutes ses espérances et tout son amour et toute sa possessivité. Donc, il s'est opposé radicalement à leur rencontre jusqu'à ce que, effectivement, Schumann et Clara décident de l'attaquer en justice pour obtenir, quand elle a eu 21 ans, c'est-à-dire en 1840, enfin le droit de l'épouser.
Alors, il se marie, Schumann mène une vie qu'il veut un peu plus rangée, justement, qui lui ressemble finalement assez peu. Alors, il se lance dans un genre musical nouveau, la musique vocale, les leaders, dont le premier a été composé en 1840. Écoutez-le, il est chanté par Dietrich Fischer-Dieskau.
Schlimm und arg, der Zimmer für einen Totenstand. Es hämmert und klopft bei Tag und bei Nacht, es hat mich schon längst um den Schlaf gebracht. Ach, sputet euch, Meister Zimmermann, damit ich bald
un des très nombreux leaders de musique vocale de Schumann, ça c'est un genre nouveau, qui montre d'ailleurs une chose qui apparaît bien dans votre livre aussi, Michel Schneider, c'est cet homme est tout le temps déchiré entre la littérature et la musique. Là, c'est sur un texte de Heine.
Oui. Comme il était déchiré, je dirais, entre le père et la mère. Le père, c'était les livres, il était libraire, éditeur, il écrivait un petit peu à ses heures perdues, et la mère était musicienne et plus effacée, mais certainement très bonne musicienne. Donc elle chantait des mélodies. Et Schumann, dès le début, a toujours hésité, est-ce que je vais devenir poète, littérateur, ou est-ce que je vais devenir musicien? Il a composé de lieds qu'il n'a pas publié, puis qu'il a repris 20 ans plus tard, dans cette fameuse année du lied, qui est 1840, juste après son mariage. C'est-à-dire que le mariage l'a débloqué, d'abord vers ce monde de la féminité. La plupart des lieds sont dédiés à des femmes ou écrits pour des voix de femmes, même s'ils peuvent être aussi bien chantés, transcrits par dans le registre masculin. Mais cette explosion de lieds, il en a écrit 150 en un an. C'était comme cette voix un peu rentrée qui était sous le piano, qui devient comme ça, qui prend le devant de la scène. Mais en effet, ce qui singularise les lieds de Schumann par rapport à ceux de Schubert, par exemple, c'est la qualité extrême qu'il visait quant au texte littéraire. Les très grands poètes sont là, Goethe bien entendu, mais aussi Heine qui a inspiré énormément Schumann, ou Eichendorff. Ces gens-là étaient, ou Lenau, okay, qui sont des grands poètes du romantisme allemand. Il n'a pas écrit sur Hölderlin, mais c'est son état d'esprit. Donc il était très soucieux de la qualité de la langue. Il n'aurait pas composé des romances sur des textes imbéciles, comme l'ont fait d'autres grands compositeurs. Et de grandes œuvres peuvent être composées sur de mauvais textes.
En tout cas, il écrit beaucoup moins pour le piano. Il y a les lieds, et puis il va y avoir les symphonies. Un opéra qui a été un échec, Genoveva, qui a été retiré de l'affiche à la troisième représentation. Et puis alors justement des symphonies, dont la dernière, écrite en 1851, la quatrième. Scherzo de la quatrième symphonie, écrite en 50 ou 51. Alors c'est quand même l'œuvre d'un fou, plus que quelqu'un qui se sent devenir fou. Vous l'écrivez, Michel Schneider, l'œuvre de Schumann révèle moins la folie que la lutte contre la folie, la douleur muette devant la forme et le discours, etc. C'est ça au fond, moins la folie que la peur de la folie dans laquelle il sent qu'il est en train de sombrer.
Et la lutte contre la folie, moi ce qui me touche dans cette musique, qui n'est pas folle, je dirais, n'est pas écrite, il y a des pages de Schumann, je pense à la toccata par exemple, qui tourne en rond comme ça, où on a vraiment l'impression d'une toupie, enfin quelque chose de très répétitif, de très très morbide. Mais ces pages-là ne sont pas folles, elles sont emportées, elles sont pleines d'un enthousiasme un peu tragique, mais elles ne sont pas folles. C'est ce qui me touche chez lui, c'est cette lutte tout au long de sa vie, encore une fois, pour imposer silence à la folie, ou pour plus exactement la mettre en forme, la mettre en note, lui donner une existence et la transformer en beauté. Là, chez Schumann, il y a toujours ce moment de transformer la folie en quelque chose de tangible, quelque chose à partager avec les autres. Il n'est pas autiste, il n'est jamais fermé sur lui-même, sur sa dépression. Il essaie toujours de comme il dit, je vais faire chanter ma douleur.
Et quand il n'y parvient pas, et c'est peut-être la raison de cette tentative de suicide en 1854, il se jette dans le Rhin, c'est quand même assez...
Et après, il n'écrit plus une note de musique, parce qu'en effet, il n'arrive plus à cette alchimie qui consiste à transformer la douleur en plainte, puis en chant, puis en musique.
Et puis alors, c'est après cette tentative de suicide qu'il est interné à sa demande. C'est lui qui voulait être interné.
Oui,
dans un...
Oui, probablement voulait-il protéger sa femme, sa famille d'accès de violence, de folie. Bon, il n'était pas... il a demandé très gentiment, comme un petit garçon demande qu'on l'emmène à l'école, d'être conduit à l'asile, parce que il voulait se protéger contre lui-même, peut-être contre le retour d'un suicide ou d'un acte meurtrier sur sa famille. Donc on l'a conduit là-bas. Alors les méthodes à l'époque de traitement de la maladie mentale étaient assez sommaires. C'était l'isolement, les douches glacées et pas grand-chose d'autre.
Et lui-même perd la raison, vous le dites. Il transcrit des colonnes de chiffres commençant tous par 1 et 2, ne fait plus que regarder des atlas, noter les noms de lieux, de villes, de pays. Son langage devient totalement inaudible. Et alors il meurt, il se nourrit plus.
Il a perdu la musique, ouais. Il a perdu l'appétit, il a perdu le désir de vivre. Et effectivement, il meurt d'inanition, de faim. Il ne voulait plus avaler quoi que ce soit, comme si, un peu comme un enfant qui a perdu sa mère quand même. Il y a cette séparation qui dure près de 2 ans et demi, pendant laquelle Clara ne vient jamais le voir, pendant laquelle il soupçonne qu'elle a une liaison avec Brahms, qui habitait chez eux et que Schumann avait découvert comme étant le nouveau génie de la musique. Il avait la préscience de l'importance que Brahms allait prendre. Bon, donc Schumann reste quand même très seul dans cet asile et s'enferme dans un univers comme ça, plutôt d'images d'ailleurs, de noms, de chiffres que de notes.
Et meurt à 46 ans, aujourd'hui quand même plus reconnu que de son temps. C'est un des grands musiciens romantiques dont il est le contemporain, que ce soit Berlioz, que ce soit Schubert qui était plus âgé que lui, Chopin ou Liszt. Vous terminez votre livre par une très très jolie formule, Michel Schneider, je vous cite. Pourquoi Schumann ? Parce qu'il nous dit que nous ne sommes pas seuls à être seuls.
Oui, j'aime beaucoup le morceau de Schumann qui s'appelle Warum, en allemand pourquoi, et je crois que finalement Schumann, toute sa vie, a composé une musique qui n'affirme pas, qui ne donne pas de réponse, mais qui pose des questions. Et c'est ça qui nous touche aujourd'hui, c'est ça qui fait sa grandeur et sa singularité. Et c'est ça qui fait que certains n'aiment pas Schumann. Beaucoup de gens vous diront, moi j'adore Chopin, j'adore Liszt, j'adore Brahms, mais Schumann, j'ai du mal, parce qu'on sent toujours qu'il y a une âme qui souffre derrière cette question, pourquoi ?
Mais on se quitte justement avec lui, et une de ses œuvres les plus connues de Schumann, Scène d'enfant. De Schumann, dont mon invité Michel Schneider a écrit, sur lequel il a écrit un beau livre, Schumann, les voix intérieures, publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte. Il est également l'auteur plus récemment de Marilyn, dernière séance aux éditions Grasset, qui vient d'ailleurs d'obtenir le prix Interallié 2006, un livre que l'on lit beaucoup et qui s'arrache en ce moment dans toutes les librairies. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm Robert et Clara, la musique de l'amour, de Jacques Cortal, c'était 2000 ans d'histoire, la technique Ronan Mahé, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.